Vous voyez qu'ici, il y a un langage de Kabbalah qui affleure chez Judah Levi. C'est que Judah Levi, c'est un grand maître de la Kabbalah. Hein. Et comme les grands maîtres de la Kabbalah, il n'a pas écrit, sauf des poèmes. Si vous voulez apprendre la Kabbalah de Judah Levi, il faut étudier ses poèmes. C'est un niveau exceptionnel de beauté, d'ailleurs, l'enseignement de la Kabbalah par Judah Levi dans la poésie. Kemo Sheneema, comme il est dit, voilà, le premier verset important, suivez-le bien. Vayetse Caïn minifne Hachem. Et Caïn sortit de devant Dieu. Lorsque Caïn va en exil, voilà comment le verset s'exprime. Et il prit congé du Seigneur. Je ne sais pas comment dire. Où était le Seigneur? En Eret Israël. Qu'est-ce que ça veut dire devant Dieu? Là où la Shrina se dévoile de la façon la plus centrale, c'est-à-dire en Eret Israël. L'exil de Caïn commence à partir d'Eret Israël et ça s'appelle dans le texte hébreu minifne Hachem. Il va nous citer, Judas Lévi, d'autres exemples où chaque fois qu'il y a Milifne Hachem, ça veut dire à partir des résistants. Zotomeret, ça veut dire Minaretahi de cette terre-là. Chez Kenamar Kaïn, car c'est ainsi que Kaïn s'est exprimé. Hen garashta aussi hayom, me'al pene adama. Ainsi, tu m'as exilé aujourd'hui au-dessus de la terre. Ou mipanecha et sa terre. Et c'est de ta face que je dois me cacher. Ainsi donc, si j'ose dire en français, mais c'est entre guillemets, Panecha, la face de Dieu, Milifne Hachem, c'est Eret Israël. J'ouvre une petite parenthèse, si vous voulez, pour éclairer cette notion. C'est l'emploi du mot Makom pour dire Dieu. Okay. Et pour dire Dieu, et les théologiens et philosophes expliqueront ça à leur manière aussi. Pour dire Dieu, le texte dit souvent « Makom », l'endroit. Quel endroit? Cet endroit que le Talmud appelle le nombril de la terre. Vous avez entendu ces expressions, okay? Le nombril du monde. Et je vais peut-être expliquer ça comme ça. C'est l'endroit par où passent les prières pour monter, la bénédiction pour descendre. Or c'est ça le nombril. Lorsque le fœtus est dans l'embryon, comment se nourrit-il? Des pères, hein? Et c'est très exactement cette signification. Et l'endroit où s'était posée l'échelle dont nous avons parlé dans le rêve de Jacob, Talpiot, ça veut dire l'endroit où convergent toutes les bouches qui prient. Talpiot, la rosée de la bouche. C'est-à-dire toutes les bouches qui prient, finalement, prient vers Jérusalem, et c'est de Jérusalem que la prière monte, et c'est à Jérusalem que la bénédiction descend pour être donnée à toute la terre. Cette idée de nombril, est-ce que c'est un peu plus clair, hein? C'est pas du tout une figure de pure image, cela, d'ailleurs comme toutes les images réelles, cela nous relie à une réalité importante. Et de même dans le prophète Jonas. Néhémar, il est dit, Vayakom Jonas. Et Jonas se leva. Vayakom Jonas. Libroar Tarshisha. Pour fuir en direction de Tarshish. Milifne Hachem. De devant Dieu. Où était-il quand il était devant Dieu? En Eret Israël. Imkihu Lobarach. Kayadua. Ki Meretanevoa. Et alors, en réalité, nous savons que d'où s'est-il enfui? De la terre, de la prophétie. Il s'est enfui de là où la prophétie s'est adressée à lui. Et donc, c'est en tant qu'Eret Israël et Eret Anevoa qu'elle est appelée Milifne Hachem. Et comme nous avons cette expression de Milifne Hachem chez Caïn et Abel, ça veut dire que cette histoire a commencé là. Que la querelle, qui est le support du Inyana Eloki? Qui est le Garaïn du Inyana Eloki? C'est passé à propos de l'héritage de cette terre. Alors on fait un court-circuit dans l'histoire. Quelle est la terre qui est convoitée par l'humanité entière et réclamée à ses héritiers, si ce n'est pas Eretz Israël et l'humanité d'un côté, le peuple juif de l'autre? Et exactement avec les approches que nous raconte la Bible, deux contestations, la terre sainte par Ésaü et la terre sainte par l'islam, et l'ONU autour, et les juifs quoi? Est-ce que c'est vrai cette histoire-là? Je pense que c'est clair. Voilà, Judas Lévi nous dit tranquillement, du haut de son Moyen-Âge, Vous savez, il y a une contestation sur qui est Israël et à qui appartient cette terre. Ben, ça commence à Caïn et Abel. Et il n'y a pas d'autres contestations dans le monde, semble-t-il, d'après l'ONU, puisqu'ils ne s'occupent que de ça. C'est clair. Alors, on continue. C'est-à-dire, à partir du moment où l'humanité arrivera à percevoir que c'est de ça qu'il s'agit, et pas de savoir par où passe le découpage administratif où le passeport est écrit en arabe ou en hébreu. D'ailleurs, le mien, il y a les deux langues. Eh bien, que c'est de ça qu'il s'agit, peut-être les choses iraient autrement. Pour le moment, cette phrase centrale des évangiles, le salut vient des juifs, il n'y a qu'une seule sorte de chrétien qui la prononce, c'est le chrétien du Liban. Je vais vous dire une nouvelle. Et puis, les lecteurs des journaux n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils lisent Judas Lévi. Bien. Alors, on continue. Véhiné, Eshivo, Aeloka. Or, voici que Dieu lui répond, ça c'est l'humour de l'histoire, du dedans, des entrailles d'un poisson. Et la vaisselle. Et que Dieu le ramène, pardon, à la terre de la prophétie, du dedans des entrailles d'un poisson. Un poisson, dada. On dit c'est une baleine, mais on ne voit pas comment une baleine, à cause des fanons, aurait avalé un poisson. C'est peut-être un cachalot. Aussi. Il voulait se cacher, il dit, cache-toi à l'eau.
Il y a des expériences. J'ai vu l'histoire d'un marin qui avait été absorbé par une baleine. Et qu'on a réussi à sauver parce qu'il y a passé très très peu de temps, mais il était en une heure entièrement corrodé par les acides qu'il avait goûté, mais il était complet dans.
Il est devenu aussi. Il est devenu assis. Mais Shah Mishra les voito, et là, et il a de nouveau retrouvé la prophétie. Et de même que les versets font allusion à cette terre par la dénomination devant Dieu, car Nehemar Alea, ainsi il est dit à son propos de la terre, Tamid ene Hashem Elokecha ba. Les yeux de Hashem ton Dieu sont constamment fixés sur elle. Umishenolat Shet, à partir du moment où Shet est né, Véhudomel à Adam, et c'est lui qui ressemblait à Adam, que Moshe Neymar ainsi qu'il est dit, va Yolet, Bidmuto, Ketsalmo, que Adam a engendré Shet, selon sa ressemblance et à son image, ce qui n'est pas dit pour Caïn et Abel. Là, il y a un point d'exégèse, Judas Lévi nous le dit pour Abel, mais il le sort de la contestation de Caïn contre lui. Mais tandis que là, pour Shet, il dit explicitement que Shet a été engendré à l'image de Adam. Il est né avec le Aïnana Eloki. Bahou Bamakom Hebel. Lui, Shet est venu à la place de Abel. Et de là, on apprend qu'Abel y était destiné. Que non, Shet est marre, c'est qu'il est dit, parce que Chava a nommé Shet, qui châtli Elokim Zera Acher, Tahad Havel. Car Dieu m'a placé, donné, situé une autre postérité à la place de Hebel. Et donc Shet vient bien à la place de Hebel. Shem Shenikra Bo Adam. Asriha Jesutei, qui harago Caïn, car Caïn avait tué Hevel. Venaasa, Huraoun le Ikare Ben Elokim. Et c'est Shet qui est devenu apte à être nommé fils de Dieu. Shem Shenikrabo Adam, le nom dont Adam a été nommé. Et Raoui, l'imhol et taaretaï, il était donc convenable de donner un héritage cette terre, Shei Rak Madrega Achat, le Matan Galaedei. Il était donc normal que Shet hérite de cette terre qui n'est que d'un degré inférieur au paradis, au Gan Eden. Mais je le dis en lettre. C'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de gradation, le monde entier, Eretz Israël marche-pied, et puis le Gan Eden. Nous avons un texte qui dit qu'à la fin des temps, la sainteté de Jérusalem deviendra la sainteté de tout le pays d'Israël. La sainteté du pays d'Israël deviendra la sainteté de la terre entière. Alors, il y a probablement une thèse chez les juifs de diaspora qu'on attend ce temps-là, puisque la sainteté de l'Israël sera partout. Alors, on prend la page suivante. C'est sur cette terre que les patriarches ont construit Mizbechot, des hôtels, ou Bakarou Beshemachot. Et sur elle, à travers le Mizbechot, ont invoqué le nom de Hachem. Ah, Na'anou Sham. Et c'est là qu'ils ont été répondus, qu'ils ont reçu une réponse. Be'esh min ha-shamayim, par un feu qui vient du ciel, ou Ba'or Eloki, et par la lumière divine. Va'akedat Yitzhak. Et la Hakadat Yitzhak, qu'on traduit le sacrifice d'Isaac, Afi, elle aussi, Aïta Baretazo, était dans cette terre-là. Al-Har She'amad Az de Shimemato, sur une montagne qui était encore à l'époque désolée, déserte. Pour Har Moria, la montagne de Moria. Rachlea Harzman, ce n'est qu'après un certain temps, dit David, au temps de David, Et Kvaraya Hevel Aret Sahou Meushav, lorsque cette partie de la terre, ce morceau de terre, était habité, vous voulez me dire le mot qui suit ? Meushav. Et Aravna à Yébussi, et que Aravna, c'est le nom d'un roi des Jébussiens, de Yébussi, Oved, le Horesh Barahou, était, dit le verset, travaillant et en se Horesh, c'est faire casser la charrue, comment dit-on ? Labourant. Cette montagne, Noda Asoda Eloki s'est dévoilé ce secret divin, Kizehu Amakom Anouchadbo, Tishre Ashrina. Que c'est là que, dans cet endroit-là, il y a l'endroit particulier où résidera l'Ashrina. Kadavar Shenema, comme il est dit dans le verset Vaikra Abraham, et Abraham nomma Shem Amakom Ahu, le nom de cet endroit, Hashem Ire, Dieu, il verra. Acheri Amer Ayom, à propos de ce que l'on dit aujourd'hui, Behar Hashem Irae, sur la montagne de Dieu, cela se verra. Sefer Divrayamim, et dans le livre des chroniques de la Bible, Tsuyan Limforash, il est signalé de façon explicite, Bet Amigdash, Nivna, Nivna, Behar Amoria. Le Bet Amigdash, le temple, a été construit sur la montagne de Moria. Et je n'ai pas terminé de vous dire Makom. Il y a eu peut-être une parenthèse. Et c'est le mot de Makom désigne Eret Israël en tant que Pénéache dans ce sens-là. Je donne vite quelques références brièvement. Vous savez que nous avons trois sortes de mitzvot dans la Torah qu'on appelle mitzvot ben Adam la Havero. Les mitzvot entre l'homme et son prochain. Tout le secteur moral dans le sens classique. Mitzvot ben Adam le Hatzmo. Les mitzvot qui régissent le comportement de l'homme vis-à-vis de lui-même. Ils ont tout le secteur qu'on pourrait appeler la vie spirituelle. Et mitzvot ben Adam la Makom, pour dire les mitzvot entre l'homme et Dieu, on dit les mitzvot entre l'homme et Makom, et la terre d'Israël. Okay. Comme on disait en latin, cujus regio, cujus religio. Okay. On a la religion de son paysage. Après tout, c'est ce qu'il y a derrière cette des terres saintes. Terres saintes, comment ? Et c'est, si j'oserais ce jeu de mots supplémentaire, c'est en réalité une terre enceinte du Réunion à Eloki. Et la phrase de consolation, quand il y a un deuil, le dit explicitement. Et qui dit Hamakom yenachem etchem umirushalayim tenuchamu. Vous connaissez cette phrase. On dit Dieu vous consolera, que Dieu vous console, on dit Amakom, que l'endroit vous console, et vous serez consolé à partir de Jérusalem. C'est-à-dire, ce Makom, c'est Yerushalayim. Et je continue. Attendez, dites-moi quelle heure est-il ? Midi moins 10. Alors, on a le temps. Ve'ala Retsaim. Et sur cette terre-là, Nafla Kina, Benitzrak et Ishmael, est tombée la jalousie, la rivalité entre Isaac et Ishmael. Sauf Nitra et Ishmael. Et en fin de compte, Ishmael a été repoussé. Alors si nous vivons cette histoire que nous vivons, nous connaissons la fin. C'est évident. Mais à quel prix ? Diyoto que Klippa, étant comme la Klippa par rapport à. Vinkinemarbo, bien que il ait été dit à son propos, Ishmael, ne berartioto. Voici, je l'ai béni. Il a sa bénédiction propre. Rirbetioto. Et je l'ai multiplié, bimod meod. Extrêmement, extrêmement. Et on ne peut pas ne pas voir que ça s'est réalisé. Je pense que c'est clair. Il s'agit de la bénédiction à Ishmael. L'onit barer kiim betovat aolamal. Mais il n'a été béni que par les biens de ce monde-ci. Oulam, alors que Beitzrak ne'emarcham, à propos de Isaac, il est dit dans le même contexte, v'et beriti akim et Yitzrak. Et mon alliance est avec Yitzrak que je la akim, réalise. Puisque le contrat, elle a commencé à être contracté chez Abraham, mais que je la réalise. Vezek kinui leidabkut a'inyanelo. Et c'est la dénomination du fait d'être attaché à Oanyan Ayoki, Bo Velatova Barolamaba, en lui et pour le bien du monde à venir. Abel, vous rappelez la différence qu'il y avait entre Ishmael et Yitzhak au moment où Sarah intervient pour les séparer, que Ishmael était en train d'être Metzachek, rire au présent, alors que Yitzhak, ça signifie il rira dans l'avenir. Et que le principe de la séparation entre Ishmael Ishmael et Yitzhak est un diagnostic prophétique de Sarah que l'alliance du monde à venir passe par Yitzhak, celui qui rira au futur, et elle le sait au moment où elle voit Ishmael rire au présent. Et il y a donc toute une typologie d'effectuation de la conscience religieuse dans sa différence Ishmael et Yitzhak. Pardon ? C'est un diagnostic d'identité. Ça veut dire à la racine de l'identité qui se développe dans les deux lignées, le diagnostic prophétique diagnostique non pas les événements suivants, mais l'identité. Ce n'est pas de la prédiction d'événements. C'est un diagnostic au niveau de l'être et non pas des actes. Voilà, je vous raconte la scène. C'est une histoire étonnante dans la Torah, dans la maison d'Abraham. Et on nous dit ceci. Et Sarah vit le fils de Hagar, que Hagar avait enfanté à Abraham, en train de rire. Alors elle dit à Abraham, Garesh renvoie Agar et son fils, car il ne méritera pas le fils de Agar avec mon fils, avec Yitzhak. Les deux mots apparaissent immédiatement dans le verset. Elle l'a vu riant maintenant, Metzachek, rire au présent. Et elle dit, il ne peut pas hériter avec celui qui est nommé dans son identité profonde, celui qui rira à la fin des temps. Un niveau de compréhension. Et je pense que nous avons étudié cela une fois, mais peut-être tout le monde n'était pas là. Mais je vous le rappelle, c'est très important. Et c'est très difficile pour un occidental de comprendre l'effectuation de la conscience religieuse islamique. Je vais essayer de vous le décrire avec des mots occidentaux. Le musulman effectue la jouissance de l'existence de façon pieuse authentique, en tant qu'il reconnaît que ce qu'il reçoit lui vient du Créateur, le Dieu d'Abraham. Et il se satisfait de cette bénédiction de l'effectuation de la jouissance du moment présent. Et d'ailleurs, le mot de remerciement en arabe, c'est pas par hasard le même mot qu'en hébreu, il dit « bracha ». Vous voyez que je vous mette un accent arabe, mais ça ferait trop ce paradis. Et il dit « bracha ». Et « bracha », ça veut dire « satisfaction de l'abondance ». Il y a une effectuation d'authentique piété abrahamique. Je jouis de ce que le Créateur me donne, mais qui s'effectue dans la jouissance du moment présent. C'est, si vous voulez, le fils d'Abraham à l'indice Olamazé. Alors que Isaac, d'emblée, est engendré dans la dimension d'un, comment dit-on ça en français, de différer, toujours dans l'avenir, la réception du salaire d'être. Je ne sais pas comment dire ça, je vous traduis en patouette français. Yitzhak, tu n'as pas le droit de rire aujourd'hui. Tu riras à la fin, quand on aura le droit de rire. Et quand ? La Gemara est claire. En nous donnant l'enseignement suivant. Celui, je vous cite plusieurs références si vous voulez, on essaiera d'exploiter celle qui est la plus évidente pour le sujet. Celui qui peut rester une semaine sans rêver est sûrement un rachat. Un méchant. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'est pire. Alors vous voyez que la sensibilité est complètement inverse en Occident. En Occident, on vous parlera du sommeil du juste. Le sommeil du juste. Ne faites pas d'identification individuelle. parce qu'à l'échelle individuelle, ce sont des thèmes de typologie existentielle. Voilà ce que nous fait comprendre la Gemara. Comment ? Alors que le monde est ce qu'il est, tu peux rester une semaine sans avoir des cauchemars. Alors si tu peux rester une semaine sans avoir des cauchemars, c'est que tu es sûrement un rachat. Mais qu'est-ce qui nous est indiqué ici ? C'est qu'un juge authentique ne peut pas rire vraiment tant que le monde est ce qu'il est dans le présent. Il ne rira qu'à l'avenir. Il ne rira que biprinat olam haba. Quand le juste est lié à la vision du monde à venir, il peut rire. Mais quand il est lié à la vision du monde de ce monde-ci, il ne peut que pleurer. Et alors elle voit l'enfant rire dans le présent, elle sait qu'il n'est pas Yitzhak. Et qu'il y a en germe dans cette identité ce que deviendra dans l'effectuation historique la théologie de l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas à l'échelle individuelle des mystiques de l'islam qui sont allés plus loin qu'Ishmaël, si vous voulez, et qui, à l'échelle individuelle, sont reliés à la dimension du futur. C'est évident, en particulier chez les soufis. Mais malgré tout, l'effectuation de l'islam en tant qu'être religieux, elle est dans le messachek. Ce n'est pas la jouissance du jouisseur, ce n'est pas la jouissance de l'épicurien, c'est la jouissance de l'homme pieux qui reconnaît que ce dont il jouit lui est donné par le Créateur. C'est une dimension religieuse authentique, mais elle est enfouie dans, saisie, figée dans l'effectuation du moment présent. Elle ne dispose pas de cette dimension messianique qui a fait l'histoire et qui est passée par la descendance d'Isaac et pas celle d'Ishmaël. Alors c'est ce diagnostic d'identité que Sarah a apporté tout de suite. Et nous voyons qu'effectivement, et il en est ainsi dans l'histoire postérieure, il y a la seule contestation que finalement l'histoire prend au sérieux sur cette terre, c'est finalement celle d'Ishmaël. Parce qu'il a participation en quoi que ce soit dans cet héritage d'Abraham. Maintenant nous sommes à la fin de ces 2000 ans. Qu'est-ce que va retenir l'histoire ? Quand la chrétienté a réclamé cette terre, eh bien, l'histoire a souri au présent. Pas plus. Le royaume des croisés, bon, c'est vide. Alors que quand c'est Ishmaël qui la réclame, là, ça devient sérieux. C'est-à-dire que l'histoire effectue ce que dit le Midrash. Quand, par exemple, il nous arrive de lire dans des journaux occidentaux que l'État d'Israël ne tiendra pas plus que le royaume des croisés, que c'est aussi artificiel, que cette terre appartient à Ishmaël, nous, on rigole au futur parce que la différence entre le royaume des croisés et l'État d'Israël, c'est le royaume des croisés et l'État d'Israël. Mais, vous comprenez, mais il en reste pas moins question de ce bilan. Lorsque l'humanité chrétienne réclame cette terre pour elle-même, on sait très bien que ça finit par se transfigurer. La terre sainte d'une intention spirituelle. Quand c'est Ishmaël qui la réclame, là, ça devient sérieux. L'humanité entière est avec Ishmaël contre Israël.
Attendez,
regardez bien cela. Et c'est pas par hasard que c'est contre les musulmans que les chrétiens ont dû conquérir cette terre. Jamais contre les juifs. D'une part. Mais, on me répond, et d'accord, je suis d'accord avec vous, dans l'instantané, au temps des croisés, l'opinion publique internationale pouvait prendre vraiment au sérieux le royaume des croisés. Napoléon y a cru. Il a voulu le refaire. Mais le bilan de l'histoire est quoi ? Que finalement, c'est pas sérieux. La vraie querelle entre Ishmaël et Israël, et non pas du tout entre Ésaü et Jacob. Sur la possession de la terre dont parle Ésaü. Qui sera comme un anon sauvage.
Oui.
Péré Adam.
Mais alors,
disons, l'équation de l'éventualité de cette rivalité, l'histoire l'a réalisée. Mais c'est comme pour tous les problèmes de ce qu'annonce la prophétie. Ça va dépendre de ce que l'homme en tant que personne fera à travers sa liberté morale. Je vous donne un exemple qu'on a souvent étudié. L'exil en Égypte. Comment il est annoncé à Abraham ? Savoir, tu sauras que ta descendance sera exilée dans un pays qui n'est pas le leur pendant 400 ans, et ils seront persécutés. Après quoi, ils sortiront avec un grand but. Maïmonide pose la question. Pourquoi Dieu a puni les Égyptiens ? Puisque c'est lui-même qui annonce que les Égyptiens persécuteront les autres. Hein ? Maïmonide répond de la manière suivante. Je paraphrase un peu en langage moderne, mais je vous donne la référence dans le 8e chapitre de ce qu'on est pratique, sur le problème de la liberté. Dire, contradiction, injustice, comment ? Toi-même, tu dis, et les Égyptiens persécuteront les Hébreux, et après tu les punis parce qu'ils ont fait ce que tu as demandé qu'ils fassent. C'est un peu l'objection qu'on ferait à la théologie chrétienne, comment vous dites qu'il fallait que le Christ soit crucifié pour le salut du monde, et vous en voulez au grand prêtre qui l'aurait crucifié. En réalité, il ne s'est pas passé ça, il s'est passé autre chose, mais probablement ça ressort. C'était un des mystères de la conscience chrétienne qui, j'espère, arrivera à se dissoudre après nos séminaires. Et Maïmonide explique comme ça. Dieu décrit un processus que je vais vous exprimer en langage de sociologie contemporaine. Quand une minorité s'entête à sa différence à l'intérieur d'une civilisation autre, elle ne peut que secréter un phénomène de rejet. Décrit ce processus. Mais à l'échelle individuelle, rien n'obligeait chaque Égyptien à devenir cruel, à entrer dans ce mécanisme, le processus sociologique, à devenir antisémite, anti-hébreu. L'explication de Maïmonide n'est pas simple, elle est difficile, mais je vais d'abord vous répondre, parce que c'est important de le comprendre. Il n'y a pas de fatalité, il y a description d'un processus, voilà ce qui va se passer. Méfiez-vous, c'est comme ça que ça se passe, c'est les lois de la nature. Et Maïmonide dit, à l'échelle individuelle, ils ont exagéré. Alors ils sont punis, pas à cause du processus, mais parce qu'ils ont exagéré. Vous comprenez ? Parce que la tendance à la xénophobie, c'est une donnée naturelle. Au fond, on les a punis parce qu'ils n'étaient pas des héros de la sainteté, pas parce qu'ils étaient des Égyptiens. C'est ça la difficulté de Maïmonide. Quoi, il fallait s'attendre qu'on aille chez des anges ? Est-ce que c'est pas normal que des Égyptiens, au bout de 210 ans d'une présence hébraïque qui consistait à dire « Nous sommes comme vous, plus que vous, mais différents plus que vous », ils se sont déclenchés la nouvelle droite de l'Égypte. Vous voyez à peu près le problème. C'est bien attention. Alors Maïmonide nous dit « Mais ils n'avaient pas été méchants ». Mais de quoi tu parles ? D'hommes ou d'anges ? Ils ont fonctionné comme des hommes. Okay. Est-ce que c'est clair ? Bon, je vous laisse l'explication de Maïmonide. C'est ainsi pour tous les projets de la prophétie qui nous dévoilent des problématiques, qui nous dévoilent des perspectives. Étant donné cette identité, voici ce qui s'effectue. Mais à l'échelle individuelle, n'importe quel descendant d'Ishmaël peut devenir tzadik. Il a déjà la première étape. Il sait rire. C'est un peu cet optimisme dont vous parlez. Il sait rire, il sait que la bracha qui est reçue du Créateur, ça donne la joie, ça donne le rire. Il a cette tendance à la... C'est pas la jouissance de l'épicurien. C'est clair ce que je dis là. Je parle du musulman dans les situations de la piété humaine. Seulement, il se renferme sur la satisfaction ludique, si j'ose dire, de l'effectuation de cette jouissance de la créature recevant du Créateur. Isaac, lui, est dirigé vers l'avenir. Il y a un verset dans le Chétraï, le texte de la femme vertueuse, qui le dit très clairement. Vatitzrak, le Yom Aharon. Elle rit en pensant au jour dernier. Jusque-là, elle ne peut pas rire. Elle ne peut pas rire complètement. Rire que ça, le Metzachek de Ishmael. Voilà, je referme la parenthèse. Et vous dites. Comment ? Nahon, parce que Ishmael n'est pas Yitzhak. Et corollairement avec ce que nous avons commencé tout au début, et lorsqu'on parle de cette mida de Dieu d'Isaac, c'est une mida terrible, celle de Akedat Yitzhak. Et celle-là, Ishmael ne la connaît pas, il n'est pas passé par là, parce qu'il n'a pas eu lieu. Et qui s'appelle d'ailleurs dans les textes Pachad Yitzhak, la terreur de Yitzhak. Lorsqu'on découvre le dévoilement de ce que finalement la théologie chrétienne aura appelé le Dieu de colère, mais qui n'est pas le Dieu de colère, qui est le principe de la rigueur de la justice absolue réclamant le mérite d'être. Et lorsqu'on découvre cette éventualité, j'ai à mériter l'être que j'ai reçu, jusqu'au bout, totalement, parce qu'encore une fois, ce n'est pas seulement au niveau des actes, des comportements, du geste, c'est au niveau du sujet, du fait d'être. Ce fait que je sois, que j'existe, Il faut que je le mérite, il faut que j'en paye le prix. C'est ça le sacrifice d'Isaac. Hein. Se dévoile là une modalité terrifiante. Parce qu'il n'y a qu'un seul prix à payer. Il n'y en a pas deux. C'est mon être même. Il n'y a pas d'autre prix pour mon être que mon être même. C'est ce qu'Isaac a compris, a dit je suis prêt. Et dès qu'il a dit je suis prêt, Dieu lui a dit tu as acquis, c'est à toi, garde. N'oubliez pas cela. Hein. Le commencement de cette histoire, on la trouve arrivant à la fin dans le mythe de la passion. Le sacrifice est consommé. Mais dans le récit d'Isaac, le sacrifice n'est pas consommé. Rappelez-vous, le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu. L'épreuve a eu lieu, mais pas le sacrifice. Et, hein? Akeda, il y a eu, on l'a attaché sur l'autel. Hein? C'est, il faudrait traduire la ligature d'Isaac. Bien, alors je continue si vous voulez. Oui. Nahon, c'est très bien. Bon, alors vous allez me le circoncire, hein, c'est d'accord. mais peut-être que, je ne sais pas, il faudrait relire le livre. C'est un petit livre d'ailleurs, mais extrêmement intéressant d'ailleurs. Et, c'est pas lui qui a dit le rire est le propre de l'homme, non. C'est Rabelais, oui. Et, mais il pourrait y avoir une connotation musulmane. Il faut savoir laquelle des deux est là. Je vais reprendre cela. Vous savez, j'essaye de vous décrire ça encore une fois en termes occidentaux, mais il n'y a que ceux qui ont vécu avec les musulmans qui peuvent vraiment expérimenter cela. C'est-à-dire cette espèce de burkatullah, comme il dit. Okay? Donc, on a reçu ce que Dieu donne, et ce rire de satisfaction, mais qui n'est pas épicurien forcément, qui est pieux. Okay?
Il y a le fatalisme,
c'est ça. Attendez, regardez, c'est vrai, mais c'est quand même pas le fatalisme. On peut pas traduire Mektoub par le fatalisme.
Non, mais il y a...
Je veux dire pourquoi, parce que la notion de fatalisme renvoie à un processus de fatalité impersonnelle. Tandis que Mektoub, c'est quand même Dieu qui a décidé comme ça et c'est ce qu'il fait. On n'est plus dans la religion d'Abraham quand même. Ça veut dire que c'est décrété, mais par la volonté de quelqu'un. Donc il y a encore l'espoir. Tandis que la fatalité, c'est une tragédie absolue, c'est une conscience tragique absolue. Le musulman n'est pas fataliste. Oui, quand on traduit l'arabe en français, mais le musulman n'est pas fataliste. Il est musulman, soumis. Musulman, islam, ça veut dire soumission absolue.
Vous avez parlé tout à l'heure de bracha et ce qu'il faut comprendre chez les musulmans. Je me souviens de paroles de deuil où ils disent « Barkafik », comment il faut comprendre la bracha à la suite d'un décès.
Mais voilà, le deuil est venu, mais que ce soit la bénédiction qui vienne sur eux. Ou par exemple, vous avez l'expression « Barakallah », ça veut dire que Dieu te donne la bracha, à la place de ce deuil que tu as eu. Il y a un niveau de déclic de la responsabilité morale. C'est Dieu qui fait tout. Dans l'islam. Bien sûr, d'où soumission absolue, qui n'est pas le judaïsme. Mais au commencement des choses, en Abraham, si vous voulez, il y a cette reconnaissance de la Midat HaChesed absolue. C'est pourquoi un des plus beaux noms par lequel le musulman désigne son Dieu, c'est un mot hébreu, c'est Rahman. Quand ils disent Rahman, c'est ça qu'ils veulent dire. Celui qui, dans sa miséricorde, on a dit mais tu vois pas ce qui se passe d'autre. Dire à ça, c'est le chitam. C'est pas lui. Vous voyez le livre. Bien.
On peut reprocher qu'il
y a une mission
de la femme.
Ça va ensemble. Et que la circoncision n'est pas la même. Et il en résulte que l'acte sexuel n'est pas le même.
Est-ce que les théologiens musulmans étudient dans l'Ancien Testament, entre guillemets, et en quelle langue s'ils l'étudient?
Eh bien, je vais vous dire. Ça fait des années et des années que nous cherchons une rencontre de ce genre. Je vous avais dit à une des séances que je ne pouvais pas faire partie de la charité judéo-chrétienne, de l'amitié judéo-chrétienne. Par contre, dès la formation, j'ai fait partie de la fraternité d'Abraham, avec le père Riquet et le pasteur Boubaker. Comment ? Oui. Je ne sais plus d'ailleurs qui s'en occupe depuis le temps. C'est toujours lui. Et avec l'espérance qu'on pourrait avoir des rencontres entre juifs et musulmans. Ça n'a pas jamais été possible avec des Arabes. Les Arabes ont toujours refusé de rencontrer des Juifs. Nous avons rencontré des musulmans, mais des Pakistanais, des Indonésiens. Et je crois que il y a encore un niveau de sensibilité du problème qui les empêche d'admettre l'idée qu'il puisse y avoir des sources bibliques des versets du Coran. Chaque fois qu'on leur montre ça en clair, ils refusent avec une sensibilité irritée. C'est pas possible. En réalité, c'est une ancienne tradition arabe que les Hébreux ont prise avant le Coran, mais que le Coran restitue. Je vous donne un petit exemple. Parce que, au niveau de l'exégèse, on ne peut pas nier que le Coran est une synthèse de midrashim talmudique et d'enseignement de l'Évangile. Et on ne peut pas nier. Mais au niveau d'un discours arabe qui a son autonomie propre, qui est d'ailleurs dans une très belle langue. Je vous donne un petit exemple. Vous avez une petite histoire dans le Coran que Joseph est né avec 11 étoiles tatouées sur l'épaule. D'où ça vient, ça? Ça vous rappelle du rêve des 11 étoiles. Et d'autre part, le fait que c'est la ville de Shrem que Jacob lui a donné en héritage. Et en hébreu, Shrem, ça veut dire une épaule. Shrem. Alors voilà, cumulation des deux thèmes, et puis un thème de la tradition musulmane. Qu'est-ce que c'est que ce héros qui a 11 étoiles sur l'épaule? Oui. On dit, mais regardez les sources bibliques. Les sources bibliques, jamais de la vie. C'est vous qui avez copié. Bon, vraiment. Voilà, j'ai un petit exemple. Alors, on va essayer d'espérer achever le texte. Attendez, je voulais encore ajouter une réponse à votre question. Vous avez senti qu'il manquait quelque chose. C'est le fait que si quelqu'un vient consoler quelqu'un d'autre d'un deuil, alors on lui dira que Dieu te bénisse de m'avoir consolé. Pas que cette malédiction soit sur toi, le mot de bracha pouvant dire malédiction. Mais attention. Alors je continue. Nous étions là à la querelle Ishmaël et Isaac. Aval l'onikna berit l'olé Ishmaël et l'olé Isaac. Mais l'alliance n'a été donnée ni à Ishmaël d'une part, ni à Isaac qui est l'autre fils d'Isaac. Umomnam yeshlaem atzlacha ba'olam hazeh. Bien qu'ils aient réussite dans ce monde-ci. Qui a possédé ce monde-ci? L'empire de l'islam et l'empire de la chrétienté. Pas les juifs. Ce monde-ci, c'est pas pour eux. Bien. Est-ce que c'est clair, juste? Alors peut-être que si on retournait à ce marchepied du monde à venir, c'est que le monde se prépare à rentrer dans le monde à venir. Alors, ça, c'est l'héritage d'Israël. Mais, c'est clair jusque-là? Effectivement, on voit que la descendance d'Ismaël, la descendance des Alus, ont hérité de ce monde-ci, exactement comme dit Judas Lévi. Vers la Retsahi, Nafla, Kina. Et c'est sur cette terre qu'aussi est tombée la jalousie, la querelle, la rivalité entre Jacob et Ésaü. Binoir à Bechora, au sujet de l'aînesse. Oui, là, c'est la querelle avec la chrétienté, cette fois. La bracha et de la bénédiction. Il sauf qu'il trahit ça, mais en fin de compte, Ésaü a été repoussé. À l'abgevurato, malgré sa vaillance, ni pene Yaakov de devant Jacob, il colle le château malgré sa faiblesse. C'est joli, d'ailleurs, comme c'est exprimé. Imaginez ce colossal empire romain vis-à-vis de la Judée crucifiée, si j'ose dire, et en fin de compte, c'est Rome qui disparaît et Jérusalem qui ressuscite. Et je crois que c'est bien évident, malgré ça. Baretzahi, Ahou, Ayou, sur cette terre se trouvait, Blosafek, sans aucun doute, à Mekomot, les endroits, chez Nimtseou, Reouim, Nikare, Shaale, Hashamaï, qui ont été aptes à être nommées les portes du ciel. Allô, Tiré, ne vois-tu pas toi-même qui a accord que Jacob, l'Oïcha, c'est Amarot, Achera, n'a identifié, n'a relié les visions qu'il a eues, l'eau des Ornacho, ni à la cristallinité, si j'ose dire, de son âme, mais l'eau les Munato, ni à sa foi, à Hazaka, fort, ou l'Irat Elohim, Acher Belibo, et la crainte de Dieu qu'il avait dans son cœur, Kim la makom boniru, mais à l'endroit où il a vu ce qu'il a vu. Quand il a vu ce qu'il a vu, il n'a pas dit que ça vient de sa foi, de sa pureté, de sa piété. Il a dit que ça vient de l'endroit. Manora amakom aze enze kim betael. Vous vous rappelez du verset. Kemosha marakatu, comme dit le verset, et bien le voilà. Vaïra Vayomar, et il eut peur et il dit, Manora Makomazé, combien redoutable cet endroit. Voilà le makom. Alors le makom c'est le maro d'Ifnechel, d'Ifnechach, et à propos d'Ifnechel. Et à propos de cet endroit, il est dit aussi, va y garder un makom. Passant par là, il se heurta à l'endroit. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que c'est avec vous que j'ai étudié ça ce petit? Dans ce séminaire? Non. Alors ça devait être juste avant Jérusalem. Oui, d'accord. Zotomere, ce qui veut dire, bah, makom aminuchad, il arrivera à l'endroit par excellence, à l'endroit connu, comme étant l'endroit du rendez-vous, et que lui va appeler, c'est la porte du ciel. Ah oui, nous en avons parlé un peu lundi matin, à propos de l'échelle, sur la question du rêve, vous vous rappelez? Oui. Et c'est très important de voir ça. Je pense que nous sommes arrivés en un temps, ça encore, dans une génération de Zohar, M. Gordin, qui nous avait dit, on ne sait pas lire la livre, allez, la Bible, allez, on recommence. Il faut la lire comme elle est écrite. Okay? C'est qu'il faut lire les choses comme elles sont écrites. Simplement se rappeler que ce type d'événements que la Torah décrit se sont arrêtés d'être dévoilés il y a 2000 ans, avec l'arrêt de la prophétie. Okay? Mais que c'est ce qu'il y a d'écrit simple qui s'est passé. Qu'effectivement, cet endroit a été le lieu de communication entre le ciel et la terre, et qu'on ne nous a pas raconté des histoires. Et du profond de l'inconscient de l'humanité tout entière, il y a cette réclamation de cette terre à Israël. C'est la suite de la même histoire, encore une fois. Bon, allez, on continue. Il nous reste juste un paragraphe. Vechen ataroé. Et ainsi tu vois toi-même, qui bechir ancha sgula, que le choisi des hommes de l'élection. Vous vous rappelez? Abraham. Acharé aloto. Les madrigotes shlemut, après qu'il soit monté par lui-même les degrés du perfectionnement, et asoto raoui, qu'il soit devenu apte à être ridabek, à s'attacher à Inyan Eloki, ou Inyan Eloki, et à Evar, mais Arso, il a été traverser quelqu'un. Hein? Non, ici, Judas Lévi a gardé, son traducteur d'ailleurs, a gardé, peut-être c'était en arabe, a gardé le mot hébreu qui veut dire hébreu. Et à Évar, il l'a hébraïsé. Hein? Il l'a fait traverser. Merzo, de la terre où il était, au Kazdim, et la Makomaou, à cet endroit-là, Israël, à Sherbolevad, Yadiyar, les Tachlis, parce que. Où là seulement, il arrivera au dernier mot de la perfection. Vous n'avez pas le texte suivant. Okay? Bon, je pense que finalement nous avons étudié deux choses importantes. D'une part, trois choses importantes, si vous voulez. D'une part, la notion de Inyan Eloki, et c'était elle qui était en tant que notion reliée à la philosophie de Bergson. Deuxièmement, qu'est-ce que signifie le Inyan Eloki du point de vue de l'identité du peuple? Troisièmement, que signifie la dimension nécessaire de la terre comme dimension de l'effectuation des Inyan Eloki? Et au fond, le récit que nous a donné Judas Lévi est très clair et très simple. Ce n'est pas autre chose que le récit de la Bible, mais en nous donnant une clé concernant notre problème. Par où passent les engendrements? Par où passe l'alliance? Et par où passe la promesse? Et ce que cela implique. Il y a une troisième dimension, mais je prévoyais qu'on n'aurait pas le temps, c'est la Torah elle-même, qui est la Torah de l'Union Eloki. Et il y a trois axes. C'est Am Israël, Eret Israël et Torah Israël. Les trois dimensions sont nécessaires pour que l'Union Eloki s'effectue. Vous voyez que nous avons bien vu qu'il y a un ordre. C'est Am Israël et c'est lui seul, ce Am-là, qui peut être le Am de l'Union Eloki, mais il lui faut sa terre. Mais il ne faut pas seulement sa terre, il faut aussi sa Torah. Est-ce que c'est clair tout ça? Alors je vous citerai pour terminer un enseignement du Ben Ishraï que j'ai cité une fois et qui nous montre de façon très claire et d'ailleurs dans cet ordre-là. Le Ben Ishraï dit ceci. C'est finalement Jacob Yaakov qui deviendra Israël. Mais pour que Jacob devienne Israël, il va falloir deux mutations encore. L'une, qui est rendu possible par Moshe, Moïse, et donc c'est l'acte de la Torah. Et là, vous avez deviné, il s'agit du peuple. Et l'autre par David, et c'est celle de la terre. Voilà comment il nous le montre. C'est que pour que Jacob devienne Israël, il lui faut Moïse et David. Vous comprenez les perspectives. Alors il nous dit, on va compter ensemble, la valeur numérique de Jacob, ça fait... Dites tout de suite. 182. La valeur numérique de Moshe, ça fait combien? 300.